On a appris à la connaître pendant la pandémie. Elle a été très présente. On l'a beaucoup appréciée parce que c'est une bonne vulgarisatrice, une femme, écoutez, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, Dr. Caroline Quach. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Bernard.
Ça va?
Ça va.
Oui? On s'en sort tranquillement, pas vite?
Ben oui, ça va bien. Je viens de regarder, on a quoi, 189 cas aujourd'hui, c'est bon? 24 000 tests.
Oui, c'est bon.
C'est excellent. On continue comme ça.
Alors, parle-nous un petit peu de ce qui se passe à Sainte-Justine. Là. C'est comme si, c'est quoi les... Il y a d'autres petits virus qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, depuis 2 mois à peu près, on a commencé à voir les virus respiratoires d'hiver qui se pointent le nez. Puis en même temps, on a les virus d'été qui se sont aussi pointés le nez. Je pense qu'avec la reprise des contacts entre personnes un peu plus soutenues, bien, on voit les bronchiolites là, qui auraient dû commencer en novembre et qui ont décidé de passer Noël sans nous refaire surface. Alors, je dirais que la plupart des salles d'urgence ont l'air d'être débordées avec... Puisque ce qu'on m'a dit hier, c'est qu'on a l'impression d'être en plein milieu de l'hiver. Mais il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus difficile pour les parents de faire voir leurs enfants en communauté parce que la plupart des cliniques, quand il y a de la fièvre et de la toux, ne voient pas les patients et vont les référer à l'urgence. Et donc, pour être vus, ben, les gens viennent à l'urgence. Fait qu'ils sont effectivement un peu débordés.
Est-ce qu'il faut revoir nos protocoles? Est-ce qu'il faut commencer à faire la transition vers une sorte de retour à la normale et donc vers une situation où les cliniques médicales accepteraient de voir ces enfants-là? Parce que là, l'attente à Sainte-Justine, je lisais ça dans le papier de Véronique Dubé, l'attente à Sainte-Justine, ça peut être très, très long. C'est quoi, 16 heures d'attente?
Oui, je pense qu'il nous disait qu'au début de la semaine, là, ça prenait 4 heures juste pour voir l'infirmière au triage. Fait qu'imaginez, là, ça c'est juste la première étape avant de pouvoir se faire dire qu'on va attendre un autre 12 heures. C'est effectivement très long, mais je pense que vous avez raison, là, il faut commencer à revenir à un mode de fonctionnement différent, c'est-à-dire que oui, la COVID est là, elle risque d'être là pour rester pendant encore quelques mois, on veut pas dire années, mais ça va faire partie de nos virus probablement saisonniers. Le personnel de la santé maintenant vaccinés en grande majorité à 2 doses, donc il y a cette protection-là. On a de l'équipement de protection individuelle, donc on est capable de voir ces patients-là de façon sécuritaire sans se contaminer nous-mêmes. Et donc oui, les cliniques pourraient commencer à revoir leurs patients, même s'ils font de la fièvre puis qu'ils toussent un peu comme avant. Là, la plupart du temps, c'est juste un rhume, il n'y a rien à faire. On leur dit, écoutez, on s'hydrate puis on attend que ça passe, mais si jamais il y a quelque chose de plus sérieux, bien, au moins le médecin qui est traitant aura vu ce patient-là.
Parlons un petit peu des problèmes de santé mentale des adolescents. Il y a le papier ce matin de Marie-Lise Mormina là, qui cite la pédiatre Marie-Claude Roy. Je sais que tu l'as vu, Caroline. Et là, elle parle de jeunes de 12, 13, 14 ans en particulier qui ont complètement cassé psychologiquement. Dans certains cas, on parle d'élèves modèles à l'école qui n'avaient aucun problème. Et là, la COVID les a comme fauchés. Et là, on se rend compte que ça va prendre, dans certains cas, ça va prendre du temps à nos ados à s'en remettre de cette pandémie-là. J'imagine qu'à Sainte-Justine, hôpital pour enfants, vous envoyez de ça?
Ouais, ben les collègues qui me disent, parce qu'encore une fois, c'est pas mon champ d'expertise là, la santé mentale, c'est un peu loin de la maladie infectieuse, mais effectivement, on sait que les unités de pédiatrie générale sont aux prises entre autres avec un nombre croissant de jeunes avec des troubles de la conduite alimentaire. Ce qu'on voyait pas avant là, c'est il y a vraiment une augmentation fulgurante de cette présentation là. Puis je pense que pour un ado qui avait une certaine structure, qui allait à l'école, qui avait des activités, de les faire se mettre en confinement complet, puis voir leurs amis, puis avoir d'activités parascolaires, c'est hautement déstabilisant pendant une période en plus où ils sont en train de se développer. Là, moi, je parle de mon mien en particulier, mais c'est sûr que ça a été difficile. Puis je suis contente que le Québec ait quand même réussi à maintenir la présence scolaire alors que l'Ontario est encore en fermeture complète de ses écoles. Nous, au moins, les jeunes ont réussi à aller à l'école. Bon, on s'entend que les 3, 4, 5, ça a été un jour sur deux avec un masque, mais il y a eu quand même cette présence-là, cette rencontre-là avec les professeurs. Mais effectivement, ça semble être un effet secondaire de la pandémie, oui, qu'on n'avait peut-être pas anticipé à ce point-là. On avait l'impression que ça serait important. C'est pour ça que les pédiatres se sont battus dès le début pour maintenir les écoles ouvertes à tout prix. Mais ça a eu un impact fort important sur nos petits.
Oui, je suis content que que tu fasses le lien avec l'ouverture des écoles, le maintien de l'ouverture des écoles. Toi, dans ton esprit, c'est très, très clair que pour ce qui est de la santé mentale, là, je parle pas de réussite scolaire, puis c'est bien important, on s'entend la réussite scolaire, mais je parle de santé mentale. Dans ta tête, Caroline Couache, c'est très, très clair que c'était la bonne décision à prendre pour aider nos jeunes à dépérir le moins possible sur le plan psychologique.
Ben tout à fait, parce que c'est la structure qu'ils connaissent. Je veux dire, on peut pas demander à un jeune d'être dans son sous-sol toute la journée avec des parents qui sont en télétravail à côté, sans contact avec des jeunes de leur âge ou même avec leurs professeurs, puis penser qu'il va y avoir le même genre d'interaction. T'as vu les tiens, j'ai vu le mien. Mmh. Le mien dans le sous-sol, les trois quarts du temps la caméra était fermée, puis je me disais, écoute, t'es pas supposé être en interaction avec ton prof. Mmh. Puis bon, alors c'est sûr que dans la classe, déjà la réussite scolaire était meilleure, mais au moins il y avait ces discussions-là qui pouvaient survenir. Même moi, comme prof, je déteste enseigner sur Zoom. À des classes de 300, je veux mourir. Je pose des questions, il n'y a pas un chat qui me répond. Et je ne suis pas capable d'aller les chercher parce que je ne les vois pas. Alors que quand on est en présence, on peut voir, il y en a un qui répond moins bien, qui s'endort dans le coin, je vais aller le chercher. Mais c'est tellement essentiel au bon développement de tous. Je pense que les adultes aussi, mais c'est encore plus critique chez les enfants et les ados parce que c'est là où on est en train de modeler leur vision sur la société puis leur estime d'eux-mêmes aussi. Mais pour nous, depuis le début, c'était hyper archi important et je suis tellement contente que l'Association des pédiatres du Québec là, se soit mise sur ce dossier-là. Dès le début, Marc-Claude Roy, d'ailleurs, faisait partie de l'exécutif puis elle a été hyper active dans ce dossier-là.
Parlons, en terminant, de ce mandat à la présidence du Comité consultatif national de l'immunisation. Donc ça a été un comité évidemment très important pendant la pandémie et c'est toi qui le présidais, Caroline, et là, ton mandat est terminé. Quel bilan tu fais de ça? D'abord, tu devais jamais penser que tu allais être pris pour gérer une pandémie à la présidence de ce comité-là. Je veux dire, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire avec toutes tes autres occupations et la vie de famille. Je sais pas comment tu as fait.
Ben moi non plus, mais tu sais, quand on est pris dans un tourbillon, on se pose pas trop de questions puis on avance. J'avais jamais anticipé avoir un rôle aussi important comme présidente de ce comité-là. Quand j'ai commencé en 2017, on était sur le cruise, on a vu passer le vaccin de l'Ebola, on a vu passer quelques vaccins, mais jamais on s'attendait à être aussi impliqué. Et finalement, ben en bout de ligne, j'ai le sentiment du devoir accompli. Je pense que le comité a très bien travaillé. On a été diligent, intègre, transparent. On a suivi ce que la science nous disait. On n'a pas été teinté ou en fait mis sous pression par le politique. Et ça, je pense que c'était très important. Mais heureux d'avoir terminé, mais fier de ce qui a été fait.
Quelle a été la décision la plus importante, à votre avis, que vous avez prise? Est-ce que c'est celle sur l'utilisation des vaccins?
Je pense que c'est celle où on a étiré l'intervalle entre les doses. Le Québec l'avait déjà fait. Ça, je leur lève mon chapeau. La Colombie-Britannique y pensait aussi. Mais c'est sûr que c'est seulement quand le comité fédéral a fait la recommandation que toutes les provinces ont suivi. Et je pense que grâce à cette recommandation-là, on a réussi à vacciner un plus grand nombre de Canadiens avec une première dose. Et on a réussi à contrôler quand même la troisième vague de façon relativement satisfaisante. C'est sûr que ça prenait des mesures de confinement en plus, là. Mais on a vu quand même beaucoup moins de décès et d'hospitalisations dans nos personnes âgées, puis c'est vraiment ce vers quoi on tendait. Puis là, maintenant, on a suffisamment de vaccins, fait que là, le but, c'est de donner cette deuxième dose-là le plus rapidement possible pour qu'on soit bien protégé, entre autres, contre le variant Delta.
Et humainement, en terminant, Caroline, humainement, comment tu t'en sors? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou des moments où de grande fatigue où tu t'es dit là il faut que j'aille prendre un peu de repos parce que je pourrais casser là?
Oui, il y a trois mois là, j'étais prête à me sauver en courant du comité. Il y avait énormément de pression, énormément de critiques aussi qui venaient d'un peu partout. C'est sûr que quand on n'est pas nécessairement impliqué puis qu'on fait plus de la gérance d'estrade, c'est plus facile d'envoyer des torpilles. Et j'en recevais de collègues scientifiques là, relativement fréquemment. Ça, j'ai trouvé ça dur à porter parce qu'évidemment, j'étais le point de chute de tous ces messages-là puisque j'étais la présidente du comité. Puis c'est correct, ça faisait partie de mon rôle. Mais quand je regarde ça en rétrospective, j'ai quand même eu plus de bons moments que de mauvais moments. L'appui des membres du comité, de ma vice-présidente, entre autres, qui est extraordinaire, a fait toute la différence. Puis mon mari, évidemment, là, s'il n'avait pas été là à me dire « Ah ouais, tu peux pas lâcher, il faut que tu finisses », ça aurait été plus difficile. Mais bon, en bout de ligne, ça y est, c'est fait, je suis contente que ça soit fini, mais... Est-ce que je recommencerai? Je ne sais pas. C'est pas une question qu'il faut poser en ce moment-ci.
Je la pose pas.
Non, c'est ça. Mais quand même, difficile par moment, mais j'y ai survécu, puis je suis contente de l'avoir fait.
Puis on est content que vous ayez été là, Caroline Couache, que vous ayez été là, oui, et pour le travail que vous avez fait. Puis effectivement, c'était pas un mandat facile. C'était pas des décisions faciles à prendre. Vous étiez sous les feux de la critique, mais vous avez tenu bon et vous avez été un élément important. Dans la gestion de cette pandémie. Dr Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue à l'hôpital Sainte-Justine et ex-présidente du Comité consultatif national de l'immunisation. Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Bernard. Bonne journée.
À la prochaine. On s'en va à la pause. On vous parle au retour de ce recours collectif déposé contre des religieuses qui auraient abusé de jeunes filles sourdes et malentendantes pendant plusieurs années.